Mami Flicka, Marie O'Hara, extrait. Chapitre 7. Même avant d'avoir ouvert les yeux le lendemain matin, Ken eut conscience d'un indéfinissable malheur et il chercha à se raccrocher au sommeil. Son lit faisait face à la fenêtre. Il voyait que les pins au sommet de la colline ne bougeaient pas. Aucun vent ce jour-là. Et soudain, son malaise se précisa. Il avait fait s'emballer les juments. Depuis un moment, des bruits divers lui parvenaient à travers sa somnolence. Gus ouvrant la porte de la cuisine, enlevant les cendres de la cuisinière et la rallumant. Bruit si quotidien qu'il ne s'entendait plus. Puis, d'autres pas descendant l'escalier et la voix de sa mère disant « C'est l'heure de vous lever, les garçons !» Il sortit de son lit et s'approcha de la fenêtre en remontant son pyjama. Howard était sur la terrasse, juste sous la fenêtre. Ken voyait le dessus de sa tête, noir et lisse, l'arrêt exactement au milieu. Il portait un pantalon de coutil bleu, une chemise de toile propre et un foulard rouge. Levant la tête, il fit « Hi !» Ken le regarda, fixement, sans répondre. Les sourcils noirs de Howard et sa bouche aux lèvres minces barraient son visage de deux lignes droites. Il souriait un peu, mais ses yeux avaient une expression rusée.
« Tu es furieux contre moi, n'est-ce pas ? » dit-il.
« Cafard !
Je n'ai rien rapporté sur toi.
Tu es un menteur.
Tout ce que j'ai fait est de te demander si Cigarette t'avait désarçonné, si tu avais retrouvé la couverture. »
« C'est toi qui as tout déclenché. Tu savais que je serais attrapé. »
« Ce n'est pas mentir, ça.
Tu me fais toujours avoir des histoires. Tu le fais exprès. »«
Si on faisait la paix, Ken, on pourrait aller nager ensemble. Il va faire chaud aujourd'hui. »
Ken darda sur son frère un regard courroucé.
« On pourrait commencer à s'occuper des poulains. »«
Quels poulains ?»
Nos poulains d'été. Père en a laissé 4 dans le pré des veaux hier. Nous devons les dresser comme nous l'avons fait l'année dernière. Il a dit que je pourrais choisir le premier.
Cela veut dire que tu en choisiras un, et puis moi un, et puis toi, et puis moi, ou que tu choisiras les deux tiens d'un seul coup?
Il a dit que je pouvais choisir les miens d'abord.
Je parie que tu mens.
Écoute, Ken, si tu veux bien faire la paix, j'en choisirai un seul et je te laisserai choisir le prochain.
La voix de leur père s'éleva, mécontente.
« Est-ce que je t'ai pas dit de surveiller la roseuse, Howard ?»
Howard s'empressa de changer la roseuse de place. McLaughlin venait de la resserre aux outils. Il avait lâché les chiens qui sautaient autour de lui, frénétiques de joie, comme s'ils eussent craint chaque soir de ne plus jamais sortir du hangar le lendemain. McLaughlin tenait une pelle et enlevait le fumier dont les chevaux avaient parsemé la pelouse. Il cria à Howard de s'intéresser un peu plus à cette herbe qu'il avait eu tant de mal à faire pousser et qui lui demandait tant de soins pour rester verte. Il était suivi par la poule rouge de Rhode Island, qui avait volé un nid. Elle gloussait et picorait les mottes de fumier, entourée de sa couvée de poussins jaunes dont les petites pattes se hâtaient à son appel tandis que leurs ailerons duveteux battaient l'air. Ken se retira prestement au fond de sa chambre et commença à s'habiller. L'odeur du café remplissait la maison. Howard, tout en surveillant la roseuse qu'il déplaçait peu à peu le long de la terrasse, élaborait le plan de sa journée. Ken oublierait sa rancune maintenant. Il n'était pas difficile à manier. On pourrait s'amuser à nager ensemble ou bien à aller à la chasse.
« Déjeuner !» chanta la voix de Nell.
Elle s'avança sur la terrasse. Sa robe verte avait une fermeture éclair du haut en bas sur le devant et une large ceinture nouée par derrière. Elle claqua des mains et leur cria de venir manger. Rob laissa tomber sa pelle et courut à elle. Ken s'arrêta de nouer sa cravate pour les observer. Il souriait, la bouche entrouverte.
C'était toujours si amusant de voir jouer son père et sa mère. Elle avait échappé à son mari et courait autour du jet d'eau. Il la poursuivit, l'attrapa par sa ceinture qui se dénoua, elle poussa un cri, courut jusqu'aux marches, les deux chiens aboyants se mêlèrent de la partie et faillirent renverser leur maître. Ils étaient entrés dans la salle à manger. Ken se dépêcha de finir sa toilette, mais il lui répugnait de descendre, il se sentait hors du jeu. Dans l'escalier, il s'arrêta devant l'image du canard. C'était un grand canard noir avec les pattes et la poitrine blanche. Fier et beau, il se dressait sur son rocher, prêt à se jeter dans le lac gris aux vagues moutonnantes. Sa patte levée et son bec résolu communiquaient à Ken une telle ardeur qu'il croyait devoir lui aussi sentir dans une seconde le choc glacé de l'eau, le froid de l'atmosphère brumeuse, la solitude de ce paysage au ciel gris. Il frissonna. À la table du déjeuner, son père, cependant, guettait les pas de Ken qui avait cessé de résonner sur les marches de bois. « Je parie qu'il regarde le canard, » dit Howard.
« Quel canard ?»«
Sur le palier, il le regarde quelquefois pendant une heure. »«
Howard, il ne le regarde jamais pendant une heure, » dit Nell.
« Enfin, très longtemps, on dirait une heure. »«
Mais enfin !» dit McLaughlin en haussant le ton. « Quel canard y a-t-il sur le palier ?»«
Ma gravure d'Audubon, » dit Nell. « Celle qui est accrochée sous l'horloge. Ken aime à la regarder. »«
Ken !»
rugit son père. Aussitôt, les gros souliers dégringolèrent avec hâte le reste de l'escalier et Ken entra dans la cuisine, les cheveux méticuleusement lissés, le visage maussade.
« Pourquoi t'es-tu attardé sur le palier ?»
Ken déplia sa serviette, baissa les yeux, gêné, et répondit
« Je regardais le canard. »«
Le canard ? Par la fenêtre ?»«
Le canard de la gravure. »
Une petite étincelle joyeuse dans les yeux, Nell servit à Ken sa bouillie d'avoine.
« Ne savais-tu pas que nous étions à table ?»«
Je n'y pensais pas, » dit son père en terminant sa phrase.
Ken ne leva pas les yeux et ne dit rien. Il avait prévu que ce serait ainsi. Il versa de la crème sur sa bouillie et étendit la main vers le sucre roux.
« Ken, » dit son père, « je reviens sur l'ordre que je t'ai donné hier. Je te dispense de ton heure d'étude. »
Ken regarda son père,
plein d'étonnement, de soulagement et de plaisir.
« J'ai d'autres projets pour toi cet été, » continua McLaughlin avec solennité.
Ce qui fit baisser la tête à Nell pour cacher son sourire.
« Et, » poursuivit McLaughlin d'un ton égal, « je vais te donner un poulain. »
Ken bondit de sa chaise, renversant avec fracas cuillère et assiette.
Un poulain de printemps, Dad, ou un yearling ?»
McLaughlin fut pris au dépourvu, mais Nell savait que si Ken recevait un yearling, il serait sur le même pied que Howard.
« C'est un yearling que ton père va te donner, » dit-elle avec calme. « Rassis-toi et mange. Kenny, regarde ce que tu as fait de ta bouillie. »
Ken remit son couvert en place et se rassit, les joues empourprées.
« Je te donne une semaine à dater d'aujourd'hui pour faire ton choix, » dit son père.
« Je peux choisir n'importe quel yearling du ranch ?» demanda Ken.
Son père inclina la tête, repoussa sa chaise et sortit sa pipe. Muet de stupeur, Ken se retourna pour regarder Howard et les deux garçons se dévisagèrent. Enfin, à égalité.
« Est-ce qu'il faut qu'il choisisse un yearling, Dad ?» demanda Howard. « Pourrait-il avoir un poulain de printemps s'il le préférait ?»
Il peut avoir n'importe quel cheval né au ranch depuis un an. Il y a 18 yearlings et 13 ou 14 nouveaux poulains.
Prendras-tu un yearling ou un poulain de printemps, Ken ? Interrogea Howard.
En guise de réponse, Ken se tourna vers son frère avec l'expression d'un sarcasme apitoyé, inspiré du cinéma à laquelle il s'était longtemps exercé.
Mais son père lui posa la même question.
« Yearling ou poulain de printemps, Ken ?»
Et il répondit.
« Un yearling.
Mâle ou femelle ?»
Là, il hésita. Roquette était une jument, mais il y avait Banner. Et puis l'albinos, le héros sauvage. Des images confuses défilaient devant ses yeux, d'où se dégageait cependant, avec netteté, la supériorité du mâle.
« Je prendrai un poulain mâle, » dit-il, avec un accent décidé.
Nell et son mari échangèrent un coup d'œil imperceptible.
« Cela circonscrit ton choix, » dit McLaughlin.
« Voyons, combien est-il né de poulains mâles l'année dernière ?»«
10 pouliches et 8 poulains. »
dit Howard.
Tu as 8 poulains entre lesquels choisir, Ken.
Ken avait l'impression que cela marchait trop vite, que la foule des chevaux le submergeait.
Lesquels ? Demanda Nell.
Ils sont tous inscrits dans le registre. Je l'ai laissé aux écuries l'autre jour dans la sellerie. Va le chercher, Ken, et nous regarderons la liste.
J'y vais aussi, dit Howard en se levant.
Et il suivit son frère qui courait, fou de joie, l'esprit rempli d'images.
Un poulain à moi. Il voyait un petit poulain nouveau-né que sa mère léchait, il voyait Banner ruant ses grandes pattes de devant battant l'air, son gros ventre clair, son visage farouche, son cou arqué. Il voyait courir un petit poulain, un noir, un bai. Son poulain à lui était à la fois tous les autres.
La tête rejetée en arrière, il criait, sautait, galopait. Howard le rejoignit et dit
« Tu es fou !»« Mon poulain ! Mon poulain !»
chanta Ken. Il tourna en rond, levant haut les genoux, écartant les coudes et il dit
« Oh, ici ! Aïe !»
puis agita la tête comme s'il secouait une crinière.
« Quel piqué !» s'écria Howard.
Ken se précipita sur lui, les poings levés.
Howard prit position et ils luttèrent. Ken, indifférent à ce qui pouvait lui arriver, brandissait les bras comme des fléaux. Howard parait ses coups sans difficulté.
Brusquement, Ken s'échappa et courut à l'écurie. Il éprouvait le sentiment très vif d'un changement et d'une nouvelle importance. Enfin, la vie commençait. Désormais, ce serait la réalité qui le passionnerait. Ils trouvèrent le registre et le rapportèrent à leur mère.
Pendant qu'elle lisait à voix haute les noms des poulains, ceux de leurs parents,
Ken eut une impression étrange. Ces animaux déterminés, de chair et de sang, inscrits et décrits dans un registre, n'étaient plus les poulains qui s'étaient cabrés, qui avaient joué et secoué leur crinière dans ses rêves. Il lui semblait, comme à tout rêveur dont le rêve se concrétise, avoir perdu quelque chose.
« Je ne les ai pas tous baptisés, » dit Nell. « Il y en a que je n'ai jamais vus. Ils s'étaient sauvés quand je suis arrivée pour les inspecter et les enregistrer. »«
Cette troupe de sauvages !»
grogna McLaughlin, faisant allusion à la progéniture de l'albinos.
« Ils sont toujours absents quand on a besoin d'eux. » »«
Ken et moi avons dressé nous-mêmes 4 de ces yearlings, » dit Howard.
Chaque été, les garçons se voyaient confier la tâche de dresser 4 poulains de printemps.
« Les poulains dressés par les garçons l'année dernière, » dit Nell en consultant le registre, « sont Doug Boy, College Boy, Lassie et Firefly. 2 poulains et 2 pouliches. »«
Dis donc, Ken, pourquoi ne prendrais-tu pas Doug Boy ?» dit Howard.
C'est l'un des tiens, et puis par le nom, il sera un peu comme le jumeau du mien. Doug Boy, High Boy, tu comprends ?
Mais Ken n'eut que mépris pour cette suggestion. Doug Boy ne serait jamais aussi rapide que High Boy. En les inspectant l'été précédent, leur père avait dit
« Celui-ci est un gros lourdeau. Nous allons l'appeler Doug Boy, gros pâté. Il deviendra peut-être un bon cheval de chasse à cour. Regardez ses grosses pattes. »
Lassie alors ? Dit Howard. Si tu veux de la vitesse, elle va comme le vent et elle est noire comme l'encre, la même robe que High Boy.
J'ai dit que je voulais un mâle, dit Ken. Et puis Dad a dit que Lassie ne dépasserait jamais 15 palmes.
Souviens-toi d'une chose, Ken, dit McLaughlin. On ne peut jamais prédire grand-chose au sujet d'un poulain nouveau-né, et pas beaucoup plus d'un yearling. C'est le sang qui importe, la prédominance du sang.
Ils avaient souvent entendu ce terme, car lorsque McLaughlin parlait chevaux, il l'employait toujours.
« De là proviennent les ennuis que me donne la progéniture de l'albinos. Il prédomine. Ce diable lègue tous les traits de son caractère. Il ne s'efface pas. Il a dû avoir quelque ancêtre magnifique, arabe probablement. Si l'on introduit suffisamment de sang arabe dans une lignée, il fait prédominer aussi bien les traits qui ne vous conviennent pas que ceux qui vous plaisent. Ces chevaux sauvages de l'Ouest ont beaucoup de sang arabe. Il provient des barbes que les Espagnols ont amenés jadis. »
McLaughlin se leva et alla prendre sur l'étagère l'un de ses livres préférés sur la généalogie des chevaux américains. Il le feuilleta, cherchant un passage. Howard rejeta soudain la tête en arrière, écouta et dit « Il y a une voiture qui vient !» Ils s'immobilisèrent tous et entendirent la voiture franchir la barrière la plus proche, monter en deuxième vitesse la colline derrière la maison et passer rapidement. Les garçons se précipitèrent à une fenêtre de derrière et virent la voiture disparaître en direction des écuries.
« C'est une voiture noire poussiéreuse, » dit Howard en revenant.
McLaughlin ferma son livre.
« C'est peut-être le vétérinaire. »«
Pour castrer les poulains de 2 ans ?» demanda Nell.
« Oui. Howard, cours vite aux écuries, voir si c'est le docteur X. »
Comme Howard quittait la pièce, Ken demanda.
« Est-ce que je pourrais y assister, Dad ?»
Nell jeta à son mari un regard significatif et il ne répondit pas.
« Monte vite dans ma chambre me chercher un mouchoir. Veux-tu, Ken » dit-elle.
« Dans le coin du tiroir supérieur de la commode, à droite. » Lorsque Ken fut parti, elle dit « Rob, ne les laisse pas assister à la castration. »«
Je ne vois pas pourquoi les en empêcher. Il faudra bien qu'ils sachent cela tôt ou tard. »
« Ils le savent déjà, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas vu faire. Tu faisais toujours castrer les chevaux avant les vacances. »«
Cela ne leur fera pas de mal. »
Ken revint, tendant le mouchoir à sa mère. Presque au même moment, Howard entrait par l'autre porte.
« C'est bien le docteur X, Dad, » dit-il, « avec son aide. »
« Je m'en doutais. Va dire à Gus d'allumer du feu et de faire bouillir de l'eau.
Il est déjà là et il a allumé le feu. »
Il était sur le point de s'en aller, mais Nell le rappela. « Assieds-toi et finis ton déjeuner. Et toi aussi, Ken, tu n'as rien mangé. » Les garçons dépêchèrent leur repas. Gus se montra à la porte.
« Si vous pouviez nous donner un vieux drap pour avoir des chiffons propres, madame, » dit-il.
Nell alla prendre dans l'armoire à linge un vieux drap propre et plié. Ken avala sa dernière bouchée, s'essuya la bouche, dit
« Excusez-moi, s'il vous plaît. »
et suivit Gus qui ressortait.
« Dad m'a donné un poulain, Gus !» lui confia-t-il. « N'importe quel poulain du ranch, jusqu'à 1 an d'âge !»
Howard les rejoignit. Nell se leva pour débarrasser la table et soupira.
« Une journée sanglante. J'espère que cela se passera sans accroc. »
Rob ne répondit pas. Il n'était pas en train de la regarder. Tout à coup, il rit et dit «
Je prendrais un poulain mâle.
As-tu remarqué de quel ton il a dit cela? Il n'a jamais eu cet accent et cet air de sa vie jusqu'ici.
S'il doit avoir la main heureuse. »
Il repoussa sa chaise, se leva et quitta la pièce.
Chapitre 13. Ken s'éveilla un matin dans l'obscurité.
Dehors, le ciel se teintait de gris. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la venue de l'aurore. Il ne rêvait jamais la nuit. Il se demandait souvent pourquoi et interrogea sa mère. « Howard rêve. Et vous, et Dad, j'ai entendu Tim lui raconter un de ses rêves. Pourquoi est-ce que je ne rêve jamais ?» Sa mère l'avait regardé d'un air bizarre et avait répondu. « Quand tu rêves, c'est d'une autre manière, à d'autres moments.
Pourquoi ?»
Mais elle ne le savait pas plus que lui. Le visage appuyé au montant de la croisée, il frissonnait un peu et se sentait excité à l'idée de sortir. Il vit que le temps avait changé. De petits nuages noirs voltaient bas, comme si le gros avait été déchiré en morceaux. Entre les nuages brillaient quelques étoiles et derrière tous les nuages, une lueur verdâtre montait de l'horizon. Il ne faisait pas encore assez clair pour qu'il pût voir distinctement. C'était un monde de pénombre où les contours des choses se montraient et disparaissaient tour à tour, flottants et imprécis. Ses pensées étaient également vagues. Il tâtonnait dans son esprit en quête d'une idée familière, mais tout avait changé en lui. Tim, lui-même, avait dit qu'il avait grandi d'un pouce depuis que son père lui avait promis un poulain, et Howard le traitait comme un personnage important. Mais il avait aussi perdu quelque chose et cette chose lui manquait affreusement. C'était un endroit tout à fait secret, où il avait accoutumé de jouer, d'être heureux. Il y faisait tout à sa guise et tout y finissait bien. Dans le monde véritable, la plupart de ses entreprises tournaient mal. Mais là, dans ce lieu que personne d'autre que lui ne connaissait, rien ne finissait mal, parce que les rêves n'ont pas de fin. L'un prend la suite de l'autre, un brouillard les couvre qui les efface. Derrière ce brouillard se forme un nouveau rêve, à l'infini. Pendant toute cette semaine, il avait essayé de retourner dans ce refuge secret. Maintenant, la porte en était fermée. Il était exposé au danger et au vent du dehors. Le poulain. Il se mit à s'habiller rapidement. Aujourd'hui ou demain, il devrait choisir son poulain. Il allait maintenant monter sur le dos d'âne, examiner une fois de plus les yearlings. Il faisait encore sombre quand il sortit par la porte d'entrée et sentit sous ses pieds le gazon de la terrasse. Personne ne l'avait entendu. Tant mieux. Il ne voulait pas de Howard, il voulait être seul quand il sortait au petit jour. C'était presque comme lorsqu'il pénétrait dans le monde sous-marin, ou dans le monde d'une image, ou d'un rêve. Pas aussi sûr qu'un rêve, cependant, parce qu'il fallait surveiller son cheval, ou s'il grimpait sur Castle Rock, faire attention à l'endroit où il posait le pied. Mais néanmoins, c'était toujours tout autre chose que le monde ordinaire du grand jour. Il traversa la pelouse à pas de loup et entra dans le pré des veaux prendre son cheval. Ken s'était promené la nuit dès qu'il avait su marcher tout seul et sortir de son petit lit. Nell s'éveillait, entendant du bruit dans le hall ou dans le salon. Elle trouvait le lit du bébé vide et allait à sa recherche. Quelque part, dans l'obscurité, elle le découvrait rampant ou se tenant tout branlant sur le pan de sa longue chemise de nuit. Elle le ramassait et le remettait au lit. Elle essaya de nouer le bas de la chemise, lui enfermant les pieds à l'intérieur. Il continua ses randonnées nocturnes grâce à des prodiges d'équilibre. Elle l'entrava au moyen d'une serviette, mais il apprit à passer les deux pieds en même temps par-dessus le bord de sa couchette. Il s'accrochait au barreau avec ses petites mains de singe, se laissait glisser et sautillait au lieu de marcher. Quand il fut plus grand, il sortait parfois de la maison la nuit. Nell le faisait souvent elle-même. Quand elle ne pouvait pas dormir, elle se levait, mettait une robe de chambre, emportait son oreiller et sa couverture et s'installait dans le hamac, face au ciel étoilé. Ken trouva Lady tout près de la palissade du pré des veaux. Quand il lui parla, elle ne s'éloigna pas. Elle se laissa docilement prendre par son lit cou et conduire hors du pré. Il l'avait montée toute la semaine pendant qu'il exerçait les hongres, cherchait Roquette et inspectait les yearlings. La veille, sa mère était allée avec lui pour l'aider dans son choix. Il n'avait pas réussi à découvrir les poulains jusqu'à l'instant où, du haut de la colline, ils avaient entendu le tonnerre des sabots. « On aurait dit d'un régiment », raconta Nell à dîner. « Nous les avons vus défiler au pied de la colline comme un flot coloré. »
Il brillait au soleil, alezan, noir, bai, rouan. C'était magnifique à voir. Et il courait si souple, si gai, si libre.
Ils étaient descendus et avaient mis pied à terre pour les regarder de près. Nell avait fait remarquer à Ken combien ils changeaient au cours de leur première année d'existence. Les poulains marron foncé devenaient alezans, les rouans roses devenaient bleutés, les noirs devenaient bruns. Leur tache disparaissait complètement, leur forme se modifiait au point qu'on ne les reconnaissait plus.
« Ils sont épatants, » dit-elle à Rob.
« Lisses et luisants, leur peau est si tendue, si pleine qu'elle semble sur le point d'éclater. »
Ken aussi avait été ébloui par leur beauté. Quel sentiment merveilleux de se dire que l'un d'entre eux lui appartenait. Il les désirait tous, et dans un certain sens, jusqu'à ce qu'il ait choisi, ils étaient tous à lui. Ken mena Lady par le sentier qui traversait la gorge jusqu'au corral et la fit entrer dans l'écurie obscure. Il mit le crochet d'arrêt au licou, versa une mesure d'avoine dans la mangeoire et commença à la panser. Dad avait dit qu'il fallait monter avec des selles. Pourquoi cela? Mieux valait le faire, en tout cas. Lady était un grand rouan rouge, avec la crinière et la queue noire. Elle était vive. Son port de tête était fier et ses yeux sombres pleins d'intelligence. Ken se glissa autour d'elle une main sur sa queue, lui donna une claque et dit « Tourne-toi ! » Elle se tourna et Ken la frictionna de l'autre côté. Il lui mit la couverture sur le dos, puis la selle. Il la serra autant qu'il put, se rappelant la couverture perdue. Enfin, il lui passa la bride. Elle avait fini son avoine. Il la sortit du corral et referma la barrière. Il y avait là un rocher qui lui servait de montoir. Il y conduisit Lady, mais avant de l'enfourcher, il vérifia la sangle. Elle s'était relâchée. Lady se gonflait toujours pendant qu'on la scellait. Il avait oublié de prendre cette précaution l'autre jour avec Cigarette. Il resserra la sangle de 3 trous et monta sur le cheval. Les 4 chevaux sauvages que dressait Ross broutaient dans le pâturage des écuries, tout près des corrales. Quand ils aperçurent Ken, ils s'avancèrent vers lui au trot. Il s'arrêta, les laissa s'approcher de Lady et la renifler. Quand il se remit en marche, ils le suivirent un moment, puis retournèrent d'eux-mêmes au corral. Ken se dit qu'ils attendaient l'avoine que Ross leur donnait toujours avant de les faire travailler. Ils s'appelaient Gangway, Don, Rumba et Blaze. Quelquefois, songea-t-il tout en galopant vers la barrière de la grande route, les noms que Mère leur donne ne leur vont pas, parce que les poulains changent tellement pendant leur première année. Par exemple, le premier été, Nell avait baptisé un poulain à l'air tellement fin et aristocratique, Élégance irlandaise, d'après une rose de Californie d'une belle couleur cuivrée. Mais le second été, il avait perdu toute sa distinction et on ne l'appelait plus que l'Irlandais. Le plus grand et le plus beau des 4, Gangway, un bai issu de Taggart, donnait beaucoup de fil à retordre à Ross. La veille, Ken et Howard, juchés sur la palissade du corral, avaient assisté au dressage. Gangway se cabrait. Et Ross avait appelé Howard pour qu'il ouvrît la barrière afin de le laisser sortir. Le cheval rua contre la barrière. Ross brandit sa cravache et l'éperonna. Gangway se démenait en tous sens pour le désarçonner. Mais Ross, un petit sourire aux lèvres, se tenait ferme, sans cesser de faire aller sa cravache. Lorsqu'il passa devant Ken en grand bond de sauterelle, il dit « Autant le laisser se démener, ça lui calmera les nerfs !» Enfin, Gangway eut été réduit à l'obéissance et que Ross l'eut amené dans le corral. Le petit dresseur descendit de cheval, s'accota à la palissade et vomit. Ken fut obligé de descendre de cheval pour ouvrir la barrière de la grande route. Il prit soin de tenir fermement les rênes tandis qu'il faisait passer Lady et refermait la barrière derrière lui. Il trouva un autre rocher pour lui servir de montoir et prit le chemin du dos d'âne. Les nuages étaient tous devenus roses et se détachaient sur un ciel bleuté. Au fur et à mesure que Ken montait la pente, le ciel s'élargissait et l'innombrable troupeau de ces petits nuages s'étendait, plus vivement coloré à chaque minute. Toutes les étoiles s'étaient éteintes, sauf une qui étincelait, toute dorée, entre 2 nuages.
Entre Ken et Lady, un fort courant de sympathie s'était établi. Quand il avait envie de s'arrêter afin de regarder autour de lui, elle le comprenait parfaitement et elle restait immobile, les oreilles dressées, tournant la tête et contemplant le paysage avec autant d'intérêt que lui. Elle sentait le moment précis où il en avait assez et elle se remettait en marche sans qu'il eût à le lui ordonner. Aujourd'hui, elle était excitée par la couleur, la qualité électrique de l'air, le mouvement qu'elle sentait dans l'herbe et dans le ciel, et elle demandait qu'il lui lâchât bride. Quand il eut accédé à ce désir, elle allongea son nez et gravit au galop la partie la plus escarpée du dos d'âne. Ken chercha les yearlings à l'emplacement qu'ils avaient occupé la veille, mais ils n'y étaient pas. Il erra pendant une heure sans les retrouver. Il se dit que Shorty aurait bien su les découvrir. Mais Lady n'avait guère de bon sens. Elle était simplement excitée et désireuse de courir dans n'importe quelle direction. Les couleurs de l'aurore s'étaient effacées à présent. Les nuages déchiquetés avaient pris des teintes grises et violettes et l'orage menaçait. Ken atteignit la pointe la plus élevée du dos d'âne d'où la vue portait sur des douzaines de lieues carrées, mais il n'aperçut pas un seul cheval. Il savait que les poulains pouvaient se trouver dans un pli des collines sans être visibles. Mais quel pli ? De quelle colline ? Il continua sa promenade. Et soudain, au tournant d'un monticule, il vit Banner, en tête de la troupe des poulinières, attentive, rassemblée pour l'action. Ken eut à peine le temps de tourner la tête quand il aperçut Roquette et une pouliche alsane galoper vers la troupe. Banner s'élança au trot à leur rencontre, la tête baissée et tout son corps exprimant une intention irrésistible. Roquette et la pouliche s'arrêtèrent ensemble. Roquette hennit, Banner cria et se mit à tourner autour des nouvelles venues. Roquette s'éloigna au galop. Banner partit à sa poursuite, galopant tantôt à la droite, tantôt à la gauche de la jument. La jeune Alzane, qui ne se séparait pas de sa mère, le gênait. Il hennit rageusement et lui mordit les côtes. La pouliche cria et s'enfuit. Banner la pourchassa. Lady, tout comme Ken, assistait à ce spectacle, tendue et tremblant d'émotion. Les poulinières aussi, sans bouger, suivaient la course des yeux. Comme elle courait, cette petite pouliche! Roquette trottait avec nervosité, allant et venant près des poulinières. La pouliche décrivit un large cercle, Banner toujours à sa poursuite. Elle revint auprès des poulinières. Banner fit demi-tour et se précipita sur Roquette. La pouliche passa devant Ken, comme un éclair. Il vit des yeux effrayés au milieu d'une crinière flottante, des jambes minces. Et pendant une fraction de seconde, ses yeux apeurés lui adressèrent comme un appel. Il fit faire volte-face à sa monture et suivit la petite Alzane. Un coup d'œil jeté en arrière lui montra Roquette repartant au galop, Banner à ses trousses. Puis elle s'arrêta. Le grand corps de l'étalon s'éleva au-dessus du sien et la masse unique des deux chevaux se sculpta sur le ciel orageux. Quand Ken se retourna, la pouliche avait disparu. Il fit stopper Lady et scruta vainement toute l'étendue visible. Elle était vide, sans autre mouvement que ceux des nuages et de l'herbe, sans autre bruit que le souffle haletant de son cheval et les battements de son propre cœur. Le poulain de Roquette, un yearling, une pouliche, la sienne à lui. Il n'avait pas eu à la choisir, elle s'était donnée. Elle lui appartenait parce que d'un regard, elle lui avait demandé secours. Elle lui appartenait à cause de sa beauté sauvage, de sa vitesse, et parce que, à sa vue, à sa seule pensée, il sentait faillir son cœur. Puis, de loin, devant lui, parvinrent un hennissement, un autre et un autre. Et tout à coup, il vit courir sur une crête une petite silhouette dont la queue flottante se profilait sur les nuages sombres. Enfonçant les talons dans les flancs de Lady, il relâcha les rênes et, quelques instants plus tard, il vit en bas du sommet de la crête la belle pouliche rejoindre la bande de yearlings qui l'accueillirent en bavardant avec agitation, comme des écoliers qui se retrouvent à l'automne. Étourdi de bonheur,
Ken descendit la montagne. Rien de ce qu'il avait jamais rêvé, aucune des aventures qu'il avait imaginées n'approchait de ce qu'il éprouvait à cette heure. Il lui sembla être brusquement sorti de lui-même comme d'un cocon et être devenu quelqu'un d'entièrement nouveau. Et le monde également s'était soudain transformé en une chose toute nouvelle. Ainsi, c'était cela. C'était cela la vie. Oh, ma pouliche, ma beauté, ma belle.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Give you no pain.